France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Le procès en appel de François Fillon commence aujourd'hui. Il doit commencer dans les minutes qui viennent à Paris. Entre les contrats d'assistante parlementaire attribués à son épouse Pénélope et ceux de ses enfants, l'ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle est accusé d'avoir détourné plus d'un million d'euros bruts. En première instance, il avait été condamné à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 fermes. Ces contrats correspondaient-ils à des emplois fictifs ? Non, répond la défense, qui pointe également les conditions dans lesquelles l'enquête a été menée. L'affaire, vous vous en souvenez, avait éclaté en pleine campagne présidentielle et avait marqué une incursion inédite des juges dans une campagne présidentielle. Depuis, dans d'autres affaires, ont suivi 2 condamnations d'un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, il a fait appel. La mise en examen, une première, du ministre de la Justice en exercice, Éric Dupond-Moretti. Autre élément, depuis le début de l'épidémie de Covid, des milliers de plaintes ont été déposées devant la Cour de justice de la République qui juge les ministres en exercice pour leur gestion de cette pandémie. Agnès Buzyn, jadis à la santé, est mise en examen. Olivier Véran et Édouard Philippe font l'objet d'enquêtes, autant d'affaires très différentes. Mais il y a un mois, en ouvrant les états généraux de la justice, le président de la République avait mis en garde contre la judiciarisation de la vie politique. Jamais, disait-il, nous ne devons rendre impossible la décision publique. Alors dans la balance des pouvoirs, est-ce qu'on est allé trop loin côté judiciaire ou bien la France rattrape-t-elle un retard, par exemple sur les pays scandinaves, régulièrement cités comme modèle de probité? 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique réagir pour vos questions. Notre invité jusqu'à 13h45 est Cécile Guérin-Bargue, professeure de droit public à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Bonjour madame.
Bonjour Bruno Devic.
Est-ce que vous avez déjà connu des moments de tension comparables entre politique et magistrat ?
Alors, des moments de tension comparables, peut-être pas à ce niveau-là. Oui. Néanmoins, il y a déjà eu des tensions très fortes, notamment dans les années 90, lorsqu'on a vu monter en puissance le juge judiciaire, s'appuyant d'ailleurs sur le recours aux médias. Et on a vu à ce moment-là éclater un certain nombre d'affaires politico-judiciaires, ce dont on avait pas l'habitude, puisque jusque-là, le juge s'était montré plutôt frileux à l'égard des politiques.
Vous dites tout de suite, s'appuyant sur des révélations des médias, il y a un parallèle entre cette judiciarisation de la vie politique et aussi l'intérêt ou les enquêtes des médias dans ces domaines. Les deux vont de pair.
Oui, je pense que les deux vont assez largement de pair. C'était le cas dans les années 90, c'est plus encore le cas maintenant, probablement avec aussi la montée en puissance des réseaux sociaux, des chaînes d'information continue, d'enquêtes plus poussées d'un certain nombre de médias qui font effectivement sortir les affaires. Et on a vu que le secret de l'instruction n'était pas chose particulièrement bien gardée en France.
Ce qui vous choque, ou pour révéler des affaires et pour animer le débat public, cela passe aussi par là quelquefois?
Non, je crois que ça n'a rien de choquant, sauf peut-être évidemment les entraves au secret de l'instruction. Oui. Ce qui est parfois gênant, c'est qu'il peut y avoir des déclarations ou des informations qui sont données sans qu'on sache exactement l'origine. Et on ne peut pas nécessairement donner ses sources en tant que journaliste, et c'est bien normal. Mais qu'il y ait un appui sur les médias. Après tout, les médias font aussi vivre le débat public, et donc il est nécessaire qu'ils fassent ces enquêtes, ces investigations.
Alors dans mon texte de présentation, j'ai placé côte à côte des affaires et des situations très différentes. Est-ce que vous voyez en effet un fil rouge, un mouvement de judiciarisation de la vie politique? Et au fond, dans quel cas, selon vous, cela relève-t-il de l'exercice normal de la justice dans une démocratie? Et dans quel cas peut-il y avoir des excès?
C'est une question délicate parce que, en effet, ça dépend beaucoup des affaires. Je crois que s'il y a un fil rouge, c'est très nettement le fait que les juges sont beaucoup moins frileux qu'hier à l'égard du pouvoir politique et qu'ils tendent à assumer de plus en plus un rôle de contre-pouvoir. C'est-à-dire qu'ils essayent peut-être de remplir ce besoin ou de répondre à un besoin de responsabilité de l'homme politique qui se fait qui apparaît au sein de la société et auquel les juges essaye de répondre. Cela étant, on dit souvent aussi que l'un des phénomènes qui est assez marquant, c'est que cette judiciarisation de la vie publique viendrait en fait pallier les insuffisances de la responsabilité politique. C'est-à-dire que comme les hommes politiques ne sont plus assez responsables politiquement, ou que ces mécanismes qui sont au cœur de notre système de régime parlementaire ne fonctionneraient pas aussi bien qu'ils devraient, cette judiciarisation, si vous voulez, prendrait la place de ces mécanismes de responsabilité politique.
Et c'est un argument recevable de votre point de vue. Et quelle réforme il appelle, le cas échéant ?
Je ne suis pas certaine que l'argument soit totalement recevable, ou plus exactement, il me semble qu'on a de la responsabilité politique une vision très circonscrite, très petite. Pourquoi ? Parce que la responsabilité politique, c'est tout un ensemble d'éléments. C'est notamment le fait pour les hommes politiques de répondre de leur politique devant le Parlement, et ce n'est pas simplement le fait de censurer un gouvernement, de renverser le gouvernement. Pour être plus concrète, si vous voulez, il y a par exemple des commissions d'enquête parlementaire. Les commissions d'enquête parlementaire, elles existent, mais elles sont assez peu suivies par les médias et par l'opinion publique. Alors évidemment, il y a des exceptions, hein, Outreau, Benalla, des choses comme ça.
Oui.
Mais au-delà de ça, par exemple, prenez l'enquête parlementaire sur la gestion du Covid, elle n'a pas été tellement médiatisée. En revanche, la mise en examen de Madame Buzyn devant la Cour de justice de la République, là, elle a été médiatisée. Comme si, en fait, il y avait une sorte de force d'attraction du prétoire, de force d'attraction du tribunal, qui, à mon avis, est plus forte encore que jadis.
Emmanuel Macron, en lançant les états généraux de la justice, à propos, justement, des plaintes devant la Cour de justice de la République, qui est appelée à juger les ministres dans le cadre de leur fonction, avait ses propos quand des responsables, ministres, fonctionnaires, élus, se trouvent cités dans une procédure pour une crise qui est encore en cours, on est loin de l'apaisement et de l'équilibre. Il parlait des plaintes dans le cadre du Covid. Agnès Buzyn a donc été mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. Et il y a des enquêtes ouvertes concernant Olivier Véran et Édouard Philippe. Qu'en dites-vous ?
Il faut évidemment faire la part de la dimension politique de ces propos. Néanmoins, si vous voulez, moi, ce qui me dérange dans cet appel de plus en plus fort, hein, à la Cour de justice de la République, c'est que dans le cas des ministres de la Santé, on va en réalité essayer de saisir par l'intermédiaire du droit pénal ce qui est en réalité une politique publique. On peut parfaitement considérer que nos ministres n'ont pas été bons, qu'ils ont été incompétents. Mais ce qu'il faut mettre en jeu alors, c'est leur responsabilité politique, qui est une responsabilité collective qui s'exerce normalement devant l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une responsabilité pénale parce que ce n'est pas une responsabilité individuelle. Et le droit pénal arrive très mal à saisir ces questions-là.
Alors, dans le même ordre d'idées, et puis ensuite on va au standard, à propos de l'affaire Fillon, puisque c'est l'actualité du jour, je voudrais vous citer les propos du philosophe Marcel Gauchet, dans son dernier livre. Il traite du quinquennat Macron et des conditions d'élection, et il a ces mots à propos de l'affaire Fillon. « Un candidat à la présidentielle est injusticiable comme un autre, mais les juges, dans cette affaire, intervenaient de manière inédite dans ce qui est l'élection la plus déterminante de la vie du pays. » Il y a un principe d'opportunité des poursuites qui a été violé. La révélation des faits dans la presse suffisait pour mettre le peuple français en position de trancher. En s'emparant de l'affaire, les juges ont tranché à sa place. Qu'en dites-vous, Cécile Guérin-Barg, est-ce qu'il est Gaucher continue en disant « En ce sens, il y a eu coup d'État judiciaire ».
Je pense que, en l'espèce, l'argument du coup d'État, d'ailleurs, avait été repris à l'époque par les défenseurs
par François Fillon lui-même.
Il me semble qu'en l'espèce, c'est probablement un peu exagéré. Pourquoi ? Parce que, en effet, il y a un principe d'opportunité des poursuites. C'est vrai. Il y a également, et on pourra avancer dans ce sens, une tradition républicaine qui était celle d'une trêve. En période préélectorale, effectivement, on essayait de pas trop agiter les choses pour ne pas avoir d'incidence, peut-être, sur l'élection. Cela étant, en ce qui concerne cette trêve, la trêve aurait été longue parce que cette affaire a éclaté, sauf erreur de ma part, en janvier. Les élections avaient lieu en mai, donc ça aurait été une trêve très longue. Et je suis certaine qu'on aurait reproché au parquet de n'avoir rien fait dans cette affaire. Donc je ne suis pas tout à fait convaincue par cet élément-là. Et puis par ailleurs, il me semble que, en particulier lorsqu'on est face à un candidat qui fait campagne sur la probité, il est normal de savoir comment il l'entend.
Nous allons au standard et la question de Pascal. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour, oui, moi vous me permettez d'appeler, je vous remercie de nous laisser la parole.
Je vous en prie.
À travers la question qui est posée, est-ce qu'il n'y a pas trop de judiciarisation de la vie politique ? Moi, je suis tenté de reformuler et puis de dire, est-ce qu'en fait le vrai sujet, c'est pas de vouloir dire, est-ce qu'on peut donner un peu plus d'impunité aux hommes politiques ? Et là, je dis non, parce qu'en fait, quand on voit récemment encore quelques affaires qui sont sorties et qui ont scandalisé pas mal de gens, comme par exemple l'affaire Balkany, où on emprisonne un homme politique pour des fautes qu'il a commises, il se fait libérer pour des raisons de santé, et 15 jours après, on le voit danser la Lambarena sur la fête de la musique à la place de la Bastille. C'est un petit peu choquant. Et ce qui est choquant aussi, c'est de savoir, parce que votre invité parlait tout à l'heure des hommes politiques devant les juges, les hommes politiques, ils passent pas tout le temps devant les juges, ils passent souvent devant leurs confrères ministres qui forment un tribunal un petit peu secret ou un petit peu entre collègues pour se disculper les uns les autres. Et ça laisse aux citoyens le sentiment que y a la justice des politiques et la justice des citoyens, alors que les politiques sont des citoyens qui devraient donner l'exemple. Et en fait, ils montrent le mauvais exemple, à savoir, ils passent à travers toutes les mailles du filet. Moi, je suis né sous le général de Gaulle. Et je peux vous dire que dans toute ma vie, j'en ai vu un bon nombre passer à travers les mailles du filet, et c'est pas forcément le bon exemple à donner aux électeurs.
Merci Pascal. Cécile Guérin-Bargue, ça amène deux questions. Y a-t-il dans le prononcé de la peine et dans l'application de la peine disons plus de largesse pour les hommes politiques, ou c'est les aménagements de peine classiques dont ils bénéficient, petit 1 ? Et je donnerai le petit 2 après.
Alors, plus de largesse pour les hommes politiques, là encore, tout dépend des tribunaux. Oui. Notre auditeur là, faisait allusion aux ministres qui jugeraient. Oui. Alors, c'est pas tout à fait ça. Ce sont en réalité des parlementaires qui vont juger les ministres dans le cadre de la Cour de justice de la République. Là, effectivement, il y a clairement une certaine forme de bienveillance qui est contestable, notamment pour les affaires qui relèvent de défauts de probité, c'est-à-dire des affaires de détournement de fonds, etc. Est-ce qu'il y a plus de largesse en ce qui concerne les délits de droit commun dans l'application des peines ? Moi, j'en suis pas absolument certaine. Alors évidemment, l'image de Monsieur Balkany a fortement choqué, et a raison. Cela étant, si on lui a fait un aménagement de peine, c'est parce que le droit le prévoyait et que son avocat était bon. Je suis pas certaine qu'il y ait eu complot. Et puis par ailleurs, je crois qu'il faut se méfier toujours de scinder les choses en deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement des politiciens corrompus dans leur ensemble, et des magistrats extrêmement vertueux de l'autre. Évidemment, la réalité sociale est beaucoup plus nuancée.
Vous avez répondu au petit 2 avec le petit 1, c'était sur la Cour de justice de la République et le fait que des parlementaires jugent d'autres politiques, donc c'est parfait. Autre intervention standard, celle de Francis, alors que, voilà, je rappelle l'affaire des sondages de l'Élysée et Nicolas Sarkozy appelé à témoigner, mais qui n'a pas été jugé parce qu'il bénéficie de l'immunité présidentielle. Bonjour Francis.
Bonjour.
Et quelle est votre question ?
Bonjour France Inter, et puis merci pour la qualité de vos émissions.
Merci à vous.
Je voulais demander quelle est l'origine le fondement juridique de l'immunité présidentielle. Pourquoi le président bénéficie-t-il d'une immunité ? Comment est-ce qu'on justifie ça ? Et puis si on le justifie, pourquoi ne s'étendrait-elle pas à ce moment-là à ses ministres ? Et on a aujourd'hui le cas d'Agnès Buzyn, qui est poursuivie pour son activité en tant que ministre, alors même qu'elle obéit au chef de l'État, qui, pour les instructions qu'il lui a données, ne sera pas lui-même poursuivi.
Alors, Cécile Guérin-Bargue, immunité, corrigez-moi si je dis une bêtise, immunité présidentielle, il ne peut en aucun cas être poursuivi aussi longtemps qu'il exerce son mandat, ne peut pas être poursuivi sans limite de temps pour les actes commis dans le cadre de ses fonctions, sauf les cas de haute trahison, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Quel est le fondement juridique ?
Alors, le fondement juridique, c'est un article de la Constitution, c'est l'article 67 de la Constitution, qui prévoit en effet une immunité large au bénéfice du président de la République, avec une compensation qui est prévue à l'article suivant, une possibilité de destitution devant le Parlement réuni en haute cour. Le fondement, en réalité, vient du fait que nous sommes dans un régime parlementaire, et donc le chef de l'État, traditionnellement dans un régime parlementaire, est considéré comme irresponsable politiquement et juridiquement. Alors, ça marche tout à fait dans un régime parlementaire classique, où le chef de l'État n'a pas énormément de pouvoir. Et effectivement, et comme le soulignait à raison votre auditeur, dans la Ve République, vous avez un chef de l'État qui a des prérogatives, oui, et qui exerce des prérogatives et qui est finalement un peu aux manettes, enfin très largement aux manettes. Oui. De sorte qu'il y a une forme, si vous voulez, de système là qui ne fonctionne plus tout à fait, puisque vous avez un président avec des prérogatives et néanmoins une irresponsabilité. Mais le système inverse, c'est-à-dire la suppression de l'irresponsabilité, n'en fonctionnerait pas nécessairement beaucoup mieux, parce que, quoi qu'on en dise, le président de la République n'est quand même pas tout à fait un citoyen comme les nôtres.
Et il y aurait risque de paralysie de l'action publique.
Bien sûr, il y aurait risque de paralysie de l'action publique en raison de la multiplicité des plaintes. Quant aux ministres, oui, ils n'ont pas d'immunité, ils ont simplement un privilège de juridiction, la fameuse Cour de justice de la République.
Merci beaucoup Cécile Guérin-Bargue d'être venue dans les studios de France Inter, vous qui êtes professeur de droit public à l'université Paris 2, Panthéon, Assas, et donc le procès Fillon qui commence à la Cour d'appel de Paris aujourd'hui même. Il est 13h45.